Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, nous allons aborder un sujet particulier que j'ai eu à cœur de présenter, de commenter, et il est tout à fait dans l'actualité de notre temps. Je voudrais tout simplement donner un prolongement biblique ou évangélique, comme vous voulez, à cette période que nous traversons, qui a été dit et redit, le confinement. C'est un mot que nous ignorions certainement, il y a quelque temps, mais aujourd'hui, c'est dans la bouche de tout le monde. Le confinement, déconfinement, et puis tout ce qui va avec. Alors, j'ai eu cette pensée de pouvoir mettre deux images fortes pour expliquer ce confinement. Et peut-être, c'est assez original, c'est peut-être même surprenant, je vais faire une comparaison entre la jungle et le désert. Et je vous propose que nous lisions dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2 et au verset 16. Voilà, donc je rappelle, Osée, chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce que nous dit le prophète ? C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Il est bien entendu qu'il faut comprendre ces paroles du prophète inspirées de Dieu, naturellement, en ce qui concerne Israël. Le peuple d'Israël, qui est considéré comme, finalement, l'élu de Dieu. Alors, je relis, « Je veux l'attirer, dit Dieu, je veux attirer Israël, mais ça vaut pour nous, parce que les hommes restent des hommes à travers toutes les époques et les temps. Je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Alors, dans le mot « confinement », je voudrais trouver des mots qui puissent expliciter la pensée, l'idée. Il y a dans le mot « confinement » la pensée d'enfermement et également de concentration, ou tout simplement, là, d'être en quelque sorte comme en cage. Alors, quand les gens tournent en rond, on dit « il est comme un lion » ou « elle est comme un lion en cage ». Alors, on pourrait peut-être approcher les choses de cette manière. De confinement, il y a aussi ce mot qui en découle, le mot « confin ». Alors, nous pouvons dire que, par exemple, pour nous, le Jura, c'est aux confins de la France par rapport aux Nazériens, naturellement, et vice-versa. Ou tout simplement, les gens qui habitent les Hauts-de-France, les Pyrénées, c'est aux confins de l'Hexagone. Voilà. Et c'est l'image, par-delà l'enfermement, c'est l'image de l'éloignement, de quelque chose de très retiré, de retiré. Et puis, naturellement, il y a le mot confit. Alors, je vais vous faire une petite recette de cuisine, pour ceux qui veulent prendre des notes. Alors, le confit, qu'est-ce que c'est? Ça vient du même mot, naturellement, tout ça. C'est la saturation d'un élément. D'un élément qui peut être une viande, du poisson ou autre chose, naturellement. Donc, c'est la saturation de graisse. Alors, on connaît bien sûr, peut-être vous allez penser que je suis en train de m'éloigner de l'Évangile, mais je ne perds pas mon idée principale. Hein, ce n'est pas des recettes de cuisine. Donc, saturation de graisse, on pense au confit de canard, etc. Ou alors, saturation de sucre. Et ça donnait le mot confiture, naturellement, ou gelée, par exemple. Ça peut être une saturation de vinaigre, ou de saumure par exemple, ou de sel. Et le but recherché, il est double. C'est le goût, et puis c'est surtout la préservation, la conservation et la protection. Et ça c'est important parce que ça nous parle, et ça peut nous donner une raison de ce que les pouvoirs publics ont décrété, qui au niveau du goût n'a pas plu à tout le monde, et pour une grande partie de la population, il y a des gens qui se sont trouvés très bien parce qu'ils étaient dans des conditions à la fois d'environnement, jardin, etc., etc., qui pour eux, ça ne les a pas trop dérangés. Mais pour une grande partie, C'était quelque chose de pénible de voir des gens qui étaient là, confinés dans des immeubles immenses, dans des cités, avec des temps de chaleur, enfin avec pas mal de choses, sans pouvoir sortir, eh bien, autour de chez eux. Donc il y a naturellement, pour les aliments dont nous avons parlé, question de goût, mais aussi de conservation. Et je pense que nous pouvons peut-être approcher la situation des décrets ministériels qui ont été donnés, eh bien, c'était tout simplement la conservation ou la protection de la santé. Parce que on sait très bien que l'époque qui est la nôtre, c'est une période de grand risque sanitaire, avec naturellement ce que nous apprenons, ce que nous savons, ce que nous avons comme information tous les jours. Eh bien là, un enjeu, un risque très très marqué, de vie ou de survie, et puis aussi l'aboutissement, eh bien, c'est aussi la mort. Donc, on peut penser que ce soit le confinement, les confins, donc l'éloignement, les confis en matière de consommation alimentaire, ou alors, tout simplement, eh bien, cette conservation. Et les pouvoirs publics, quand ils ont dit c'était, c'était pour conserver, finalement, la santé des gens. Alors, je pense que la grande partie, eh bien, de nos concitoyens l'ont certainement, eh bien, acquise, et puis ils ont fait ce qu'il fallait. Alors, c'est ça, justement. Et moi, j'aimerais, justement, eh bien, donner un prolongement à notre méditation, parce que il y a des confinements, il y a des situations où nous sommes emprisonnés et qui ne sont pas seulement sur le plan physique, sur le plan sanitaire, qui n'ont rien à voir avec une pathologie ou une autre, mais qui sont peut-être justement eh bien là, dans un état qui pose question. Et c'est surtout sur le plan psychologique et moral, et ça nous intéresse parce que la Bible traite à la fois de la santé des corps, mais elle traite aussi de l'équilibre moral, de l'équilibre psychologique. Alors, moi je voudrais peut-être m'adresser, on va essayer de situer un petit peu qui ça peut concerner, et on est tous d'une manière ou d'une autre concernés. C'est peut-être des hommes, des femmes, qui sont accablés par les circonstances. Alors, les circonstances, elles sont multiples. Dans un monde qui bouge, dans un monde qui présente beaucoup de désordre aussi, même s'il y a des lois, même s'il y a toutes sortes de choses, mais qui suscitent de grandes craintes, donc accablés par les circonstances. Il y a aussi des gens qui sont confinés, ou qui se confinent eux-mêmes parce que leur cœur a été brisé. Jésus en fera état d'ailleurs dans l'évangile de Luc, quand il parlera qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ça peut être naturellement eh bien, la trace de tous les phénomènes de notre temps aujourd'hui, phénomènes et puis ce que l'on peut appeler les divorces, et puis les séparations, les cœurs qui ont été meurtris, et qui font que les gens n'ont pas une vie tout à fait normale. Et puis il y a les déçus aussi, déçus parce qu'ils espéraient beaucoup, et puis finalement, eh bien, du jour au lendemain, comme on l'a vu, tout s'est retourné, tout s'est renversé. Que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine, du travail, de la vie professionnelle et autre chose. Et puis il y a des gens aussi qui ont été confinés parce qu'ils ont été trahis. Donc ils se sont séparés. Ils se sont mis aux confins, en quelque sorte. Ils se sont mis à l'écart. Voilà, donc c'est aussi cela. Il y a également les pressions familiales qui s'exercent et qui font qu'il y a des gens qui sont profondément malheureux. Et nous allons voir d'ici quelques instants dans quelle classe ils se situent, soit dans la jungle ou soit dans le désert. Et puis il y a naturellement les pressions professionnelles. Ça c'est aussi il y a des sources de confinement. Et puis il y a aussi les gens qui n'ont peut-être pas toujours été très sages, qui ont été beaucoup plus cigales que fourmis, et qui se retrouvent avec des crédits, surtout en ce moment, et puis avec des dettes insolvables. Donc j'ai fait un petit tour d'horizon, qui est très, très, très limité, mais qui nous montre un petit peu les conditions extérieures qui font qu'il y a des gens qui peuvent peut-être comprendre et s'identifier justement avec la notion de confinement. Alors, nous allons commencer par la jungle. Et la jungle, on n'en a pas par ici. Non, mais si on regarde des reportages, les grandes forêts, ou l'Amazone, ou d'autres régions du monde, c'est quelque part l'accumulation de la végétation, une densité, et c'est le trop-plein, semblable à la jungle. Quand vous êtes arrivé quelquefois de regarder des reportages, eh bien, ceux qui vont explorer, les botanistes, ou tous ceux qui recherchent finalement eh bien, là, des choses dans ces endroits inhospitaliers, eh bien, là, c'est le trop-plein. Il y a des arbres, il y a des végétaux, il y a toutes sortes de choses, des ruisseaux, toutes sortes de choses dont nous reparlerons tout à l'heure. Et ce trop-plein de la vie, eh bien, est semblable à la jungle, vu sous le rapport de la multiplication et de la densité des problèmes. Voilà, on a cité quelques problèmes il y a un instant, et ce n'était pas exhaustif, parce qu'il y en a tellement d'autres. Imaginons une forêt impénétrable d'arbres qui sont enchevêtrés. Nous avons des belles forêts, vous avez différentes espèces, soit des persistants ou d'autres arbres d'une autre variété naturellement, et ils sont bien les uns à côté des autres, on fait en sorte que ce sont des forêts exploitées naturellement et bien organisées. Donc des arbres enchevêtrés, où vous trouvez vouloir avancer, et ce sont des montagnes de broussailles qui ne laissent aucune visibilité et qui déchirent. C'est-à-dire que vous êtes là à faire des efforts surhumains pour pouvoir progresser dans cette forêt, vous ne voyez que finalement, là, toutes sortes de choses, des lianes, toutes sortes d'obstacles, on pourrait le dire de cette manière, et qui stoppent la progression. Et dans ce que nous avons cité tout à l'heure, les circonstances, les cœurs brisés, les déçus, les trahis, toutes les infortunes, eh bien là, que nous pouvons rencontrer, eh bien, c'est vrai que ça stoppe la progression dans la vie. Parce que bon, vous vous battez à droite, vous vous battez à gauche, vous essayez d'essayer de voir un petit peu comment vous pouvez avancer, et puis vous avez un but, mais vous ne savez pas si c'est vraiment le vrai but, parce que vous avez perdu tout repère, toute orientation, à cause de la densité. Et on pourrait dire aujourd'hui que l'homme du 21e siècle a quand même une vie d'une grande densité. On peut le dire, on a 24 heures par jour, on a bien chronométré les choses, et on s'aperçoit que de toute façon... ça nous dépasse. Et aujourd'hui, s'il y a une plainte qui monte, notamment dans le monde social, dans le monde du travail, c'est que les gens n'en peuvent plus. Alors on avait pensé que le télétravail était peut-être une petite éclaircie dans la densité, puis on s'aperçoit que c'est quelque chose de très difficile à négocier, parce que, et surtout qu'il y a eu des rapports qui ont été faits particulièrement pour les dames, les mamans, qui elles travaillent chez elles avec une grande difficulté de travailler sur ordinateur, et puis il faut préparer la nourriture, le mari est à la maison, vous avez ceci, vous avez cela, etc. Faire la scolarité des enfants, on s'aperçoit que les psychologues sont en train de prévoir de grosses dépressions, particulièrement dans la généralité, hommes ou femmes, et particulièrement par rapport aux femmes, parce que ce n'était pas des vacances, il n'y a rien à voir. Donc, nous sommes dans une société où nous marchons dans une forêt impénétrable, quelque part, jusqu'à finalement en être malade. Alors, naturellement, devant tout cela, devant la société d'aujourd'hui, il y a une misère morale, une misère psychologique. Il y en a toujours qui en profiteront, qui seront comme des poissons dans l'eau, mais dans la majorité des cas, il y a véritablement de gros problèmes. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont à court d'idées. Il y en a qui ont envie de fuir les grandes villes, qui se disent, pourvu que je puisse revenir à Saint-Nazaire, ou venir sur la côte et tout ça, parce qu'on voit que la vie est tout à fait différente. Certes, elle est vraiment différente. Alors, il y en a qui sont à court d'idées, qui désespèrent, court d'idées, de solutions, et où ils n'ont pas les moyens, ni même le temps nécessaire pour se refaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de souffler, tout simplement. Et certains ressentent l'étreinte comme quelqu'un, et on va reprendre la comparaison, comme quelqu'un de perdu dans un endroit saturé. On a besoin de respirer, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'espace, on a besoin de verdure, on a besoin de toutes sortes de choses. Je ne parle pas de la verdure de la jungle. C'est celle que nous étions en train de dénoncer tout à l'heure. Donc, voilà, un endroit qui est saturé, qui est hostile, qui fait peur, et qui génère des craintes, qui génère des peurs, à commencer par, sur le plan de l'équilibre psychologique, un endroit, des endroits, des lieux qui sont impénétrables, qui sont parsemés d'obstacles, où vous avez des dalles, où vous avez des ravines, où vous avez des fossés, vous avez des racines, vous avez des lianes qui s'entrelacent et qui finalement sont parfois peuplées d'une faune inquiétante, sournoise et voire même dangereuse. Hein, parce que nous sommes dans un monde où tout ça, ça existe. Et ça existe à cause de la densité. Et voilà, on a quelque part besoin d'éclaircir la vie. On a besoin d'avoir un peu de lumière, on a besoin d'avoir du soleil, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être guéri à l'intérieur de nous-mêmes. On a besoin que nos yeux, que nos oreilles, devant le bruit incessant de nos sociétés modernes, eh bien, puissent trouver le calme. Donc ça, c'est la jungle. C'est véritablement, eh bien là, un monde saturé, et on sent que les gens, eh bien là, en leur promettant le bonheur, parce que bon, voilà, ils ont des moyens matériels, peut-être économiques, davantage que nos parents ou nos grands-parents, et c'est parce qu'il les rend heureux. Et d'ailleurs, c'est David qui dira dans le psaume 4, il dira, mais qui nous fera voir le bonheur? Alors si David le disait il y a 2800 ans, je peux vous dire que David reviendrait aujourd'hui, je pense que là, il fermerait les yeux et les oreilles, il repartirait où il vient. Ça certainement, hein, il me semble, voilà. Donc, cette vie errante, si je peux m'exprimer ainsi, cette vie errante, densément encombrée, c'est ça la question. Hein, les déménagements, maintenant, quand ils se font avec des gros camions. Parce que nous accumulons, nous encombrons la vie, naturellement, et c'est un signe où, ben voilà, nous prospérons, mais cette prospérité, elle ne nous apporte pas forcément, eh bien, le repos et la tranquillité. Et cette vie encombrée, où personne ne sait ni où il va, et comment faire pour s'en sortir? C'est ça la question. Et c'est bien justement la raison pourquoi nous ouvrons la Bible ce matin et nous allons donner là en fin de message. Je suis en train de camper le décor là pour l'instant, hein, faire un schéma de ce qu'est la vie et on la connaît et tout le monde peut le comprendre. Mais toujours est-il que quelque part où les gens cherchent désespérément la sortie et finalement très peu pensent que la sortie, elle ne se trouve pas en bas, à l'horizontale, comme je le dis souvent, elle se trouve en haut. C'est-à-dire qu'il faut élever nos yeux, et pas seulement nos yeux, mais nos cœurs, pour trouver... Parce que vous savez, dans le ciel, il y a de l'espace. Ah oui, il y a un espace extraordinaire. Et quand Dieu nous dit qu'il remplit le ciel et la terre, alors la terre, c'est petit, mais le ciel, c'est infini. Et je pense que c'est une suggestion où là, Dieu nous parle du ciel à travers ce livre que l'on appelle la Bible. Et il y a quelqu'un dont nous parlerons tout à l'heure un petit peu plus, qui lui peut nous montrer le chemin du ciel, le chemin pour sortir de la jungle, le chemin pour sortir de tous ces encombrements, de cette saturation. Et il y a des gens qui cherchent désespérément, et peut-être même qui cherchent pour le moins l'éclaircie. Eh bien Jésus nous dit qu'il est la lumière, qu'il est la lampe, qu'il est celui qui éclaire dans les ténèbres. Voilà. Alors, confiné dans la jungle du monde, et c'est une existence... en effet, qui nous absorbe, tentaculaire pourrions-nous dire, et qui fait que les gens ne sont pas si heureux qu'ils ne le disent. Ou alors, ils vont se donner des échappatoires, hein, à travers l'alcool, à travers l'ivresse, à travers la densité de toutes sortes de manifestations, qu'elles soient musicales ou autre chose, jusqu'à l'ivresse en quelque sorte, pour échapper justement à cela, pour nous empêcher de penser. Que dire aussi des activités angoissantes? Hein, il y a des gens qui sont malades dès lundi matin parce qu'ils doivent reprendre le travail, parce qu'ils savent qu'ils vont faire non pas une semaine de 35 heures, mais une semaine qui ira beaucoup plus loin, avec tous les problèmes qu'il y a à l'extérieur, tous les problèmes qu'ils ont peut-être dans leur propre foyer. On pourrait parler peut-être de suroccupation, c'est la jungle aussi. Suroccupation, parce qu'on s'aperçoit que le temps de repos qui est normalement fait pour se reposer, qui est fait pour prendre finalement un petit peu de souffle, eh bien, on y rajoute encore ceci, cela, etc. Parce que bon, voilà, hein, il y a tellement de propositions qui nous est faites et qui ne sont pas finalement désagréables. Mais à un moment donné, on n'en peut plus, tout simplement. Hein. Saturation physique, saturation morale, saturation psychologique qui va jusqu'à la dépression. Et aujourd'hui, on ne compte plus les gens qui sont en demi-dépression, vous savez, qui sont malades mais qui ne sont pas vraiment malades. Et puis il y en a d'autres qui sont véritablement malades et qui là, eh bien, sont là sous une camisole de force parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans anxiolytiques ou antidépresseurs et toutes sortes de choses, jusqu'à la suffocation. Et la suffocation, ça nous amène peut-être à envisager que pour certains, eh bien, pour vraiment s'en sortir, vous comprenez ce que je veux dire, hein, ça s'appelle le suicide tout simplement. Et on peut se suicider de différentes manières, hein, même tout en restant vivant. Mais on ne vit plus, tout simplement. Alors, dans les jungles de notre temps, de notre civilisation concentrationnaire, disons les mots. Voilà, hein. Les camps, on sait ce que c'est. Hein, on parque les gens et il y en a encore dans notre monde. Hein. Il y a là actuellement eh bien, des concentrations de peuples chassés de leur territoire qui sont par centaines de milliers hein, et qui sont pris en charge par voilà, les nations et pour essayer de maintenir ces gens. Mais c'est terrible, une chose pareille. Confinement démographique, quand on voit qu'on nous cite aujourd'hui des villes qu'on ne savait pas tellement la population dans certains espaces de la Chine, où on nous dit mais ce sont des villes de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions presque, et bien ça nous fait tourner la tête. Enfin, il faut dire qu'aux Indes, c'est exactement la même chose, hein, c'est la même chose. Mais tout ça nous rappelle que le monde est esclave, que le monde est dans la servitude, que le monde, même s'il ne le veut pas et qu'il crie toujours la liberté, qu'il aspire à la liberté, qu'il se bat pour la liberté, eh bien, nous osons le dire, ça fait partie des travaux d'Égypte, en quelque sorte. Vous savez, si vous voulez avoir une petite idée de ce qu'a été le peuple d'Israël a servi à Pharaon, eh bien vous lisez, vous avez plusieurs chapitres sur les travaux d'Égypte, où des milliers d'hommes meurent, et dois-je ajouter finalement ce qui suit, meurent d'épuisement, d'une façon ou d'une autre, spirituellement ou d'une autre manière, peu importe. Mais il y a son contraire. Et le contraire, c'est le désert. J'ai densifié un peu la jungle hein, pour vous montrer un peu ce qu'est la vie aujourd'hui dans toute cette pression et cette compression, nous pourrions dire. Mais il y a le désert. C'est le contraire. Ici, ce n'est pas ou plus la suffocante densité, ce n'est plus le trop-plein qui nous étrangle, mais le vide. Alors peut-être que l'on passe de l'un à l'autre. Et la transition est tellement forte que finalement, on ne sait plus où s'il y a un refuge quelque part. On ne sait pas, naturellement. Le vide. Un vide qui est infini pour certains, à l'intérieur d'eux-mêmes. Aussi parce que leurs yeux voient ce que leur cœur leur montre. Et vous savez, avec les yeux, si nos yeux sont malades, sur le plan moral et spirituel, ben, même... Vous pourriez aller dans les endroits les plus délicieux de la terre, les plus esprits, les plus beaux, ben vous n'y trouverez pas la beauté. Vous y verrez que la laideur, parce que les choses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le vide sidéral, on pourrait l'appeler, parce qu'on parlait du ciel tout à l'heure, et l'absence totale et vertigineuse, parce que nous n'y trouvons plus de repères dans le vide. Il n'y a plus que, finalement, qu'une grande confusion. Et nous n'avons même pas le problème de l'embarras du choix, comme dans la jungle, de choisir ici ou là. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de voie, il n'y a plus d'horizon. Si, il y en a un, mais il est partout pareil, devant, derrière, dans tous les côtés, parce qu'il n'y a plus rien. Et c'est une autre condition de notre monde d'aujourd'hui. C'est pas, finalement, eh bien, ils sont confinés dans le vide. C'est dramatique, c'est quelque chose de terrible. Il y a une autre, c'est une autre sorte d'angoisse, nous pourrions dire, où l'égaré, celui qui erre, eh bien, cherche à poser son regard en quête de secours et d'espoir. Quelqu'un qui est perdu dans le désert cherche quelque chose où il puisse se reconnaître. C'est comme là, un bateau perdu dans l'horizon de l'océan. Il peut regarder à droite et à gauche. Il y a la ligne qui confond la mer et le ciel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et certainement, beaucoup ont fait l'expérience où vous regardez de tous les côtés. C'est le vide, tout simplement. Et c'est la caractéristique, finalement, de ceux qui sont égarés. En quête de secours et d'espoir. Alors, le voyageur errant, eh bien, dans l'immensité sans borne ni limite, là où l'âme est sidérée par la monotonie. Trop, c'est trop, la jungle, trop d'arbres, trop de choses à voir, c'est la saturation. Ou alors, dans le désert, c'est la monotonie. Une dune, ensuite une autre, et puis ça n'en finit pas. C'est du sable, du sable, du sable, et puis il n'y a rien d'autre. Hein. C'est perdu dans un océan de plomb, on pourrait dire ça, surtout le désert. Hein. Parce que le désert, c'est chaud, en principe, dans la journée, en tous les cas. Hein. Cherchant en désespoir quelques esquifs, quelques repères, quelques limites où se raccrocher. Alors, Je ne vais pas être très long, j'ai voulu situer un petit peu pour que nous puissions nous reconnaître dans la société dans laquelle nous vivons, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, puisqu'on parle de confinement. Eh bien, je voudrais redonner la signification des mots. Confiné, c'est emprisonner. C'est être limité. C'est être retenu dans les deux cas que nous avons vus. Et mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Le trop plein ou le trop vide? Maintenant, il doit y avoir une réponse. Il doit y avoir certainement eh bien, quelque chose où Dieu a à nous dire quelque chose. Où Dieu veut nous dire quelque chose. Et je voudrais vous dire que Dieu n'est pas confiné. Hein. Non, il est infini. Il est souverain. Il remplit le ciel et la terre, nous dit le livre du prophète Jérémie. Et dans la jungle, alors, nous avons besoin, si nous voulons nous aventurer dans la jungle de notre monde aujourd'hui, nous faut un guide. Alors je sais qu'il y a toutes sortes de gens qui accompagnent les autres à s'en sortir, des conseillers, des consultants, voilà, il y a des tuteurs, hein. Voilà, il faut un guide. Mais il faut que ce soit un guide qui connaisse bien les lieux. Et pas n'importe quel lieu, les lieux dont nous avons parlé, les lieux hostiles. Voilà, quelqu'un qui connaisse bien les choses et nous montre surtout la sortie. C'est pas d'y être, c'est pas d'y rentrer, c'est pas d'y être. Ce n'est pas d'y rester, mais c'est de s'en sortir. Et ça, véritablement, l'Évangile a une proposition à nous faire, Dieu a une proposition. L'issue du labyrinthe, mais on ne suit pas naturellement, vous en conviendrez, n'importe qui. Il y a des gens qui sont des enchanteurs. Il y a des gens qui nous laissent, qui nous vendent du rêve. Il y a des gens qui nous vendent de l'illusion. Et ça marche. Et ça marche très bien, d'ailleurs. Hein, c'est comme cela. Alors bon, ben, bien sûr, hein, il y a un mot qui caractérise peut-être les crédules. C'est pas très flatteur, mais c'est le mot gogo. Et il y a des profiteurs dans tout ça. Il y a des gens qui vous disent, mais moi j'ai la solution, j'ai ceci et cela. Je voudrais quand même préciser une petite chose, c'est que c'est jamais gratuit. De toute façon, c'est jamais gratuit, même si la proposition première, c'est vous ne payez rien. Enfin, pour l'instant. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de choses, hein, sur le plan de la manipulation psychologique, sur le plan de l'occultisme aussi. Il y a des gens qui veulent extraire les autres en disant, mais voilà, j'ai vu ceci pour votre vie, il y a cela, si vous faites ceci, si vous faites cela. Mais quand vous êtes après dans le cauchemar, après avoir rêvé, ils ne seront pas là pour vous dire, non, vous débrouillerez tout seul. Et en plus, vous serez dépouillé, de toute manière. Alors, je m'arrête là-dessus parce que ce n'est pas notre propos. On ne suit pas n'importe qui. Et il y en a un qui est crédible, c'est celui dont nous allons parler. Mais qui croit qu'on peut lui faire confiance? Alors on va vous dire, mais moi je ne le vois pas. Je voudrais quelque chose, là, un guide qui soit en chair et en os. Mais justement, la foi, c'est précisément le contraire, c'est de faire confiance à quelqu'un qui parle, quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui nous fait des promesses, et que nous ne voyons pas, et qu'il faut croire, non pas de ce qu'il existe, non pas qu'il est réel, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais de le croire sur parole quand il nous dit « Je suis venu pour te délivrer, pour te sortir de la jungle, pour te sortir du désert ». C'est ça la grande différence. Alors, quand on est enfermé dans l'épouvantable solitude, le silence du grand vide, quand tout se ressemble, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a quelque chose qui ne ressemble pas au reste, dans tout ce que nous avons cité, et dans tout l'horizon de notre monde d'aujourd'hui, qu'il soit vide ou qu'il soit plein, c'est le message de l'Évangile et la personne de Jésus. Il ne ressemble à nul autre, et ça ne ressemble à nul autre ailleurs, quoi qu'il en soit. Alors, quand il n'y a pas ou quand il n'y a plus de repères, il faut également un guide qui sait et qui voit ce que nous ne voyons pas. C'est ça la question, parce qu'on veut marcher par la vue. On ne veut pas marcher par la foi. Et ce que nous ne voyons pas, c'est l'invisible. Quand il est dit à un moment donné que si tu crois, tu verras l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu, la guérison dont tu as besoin. Ouais, croire à l'invisible. Ce n'est pas une question religieuse, de superstition ou de ressenti à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une conviction, une disposition morale de notre cœur, parce que je ne vois pas, mais je crois ce que Jésus me dit. Et là, si tu crois, tu verras. Et non pas le contraire, si je vois, je croirai. Ça, c'est à tout coup l'entrée dans la jungle ou dans le désert. Quoi qu'il en soit. Alors, besoin d'un berger. Jésus se présente dans une belle parabole où il nous parle « Je suis le bon berger ». Ouais, je suis le bon berger. Vous avez en écho à travers les siècles, quand vous avez David qui dit dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ah, ce sont des paroles extraordinaires, besoin d'un berger qui lui-même est passé, parce qu'il est passé, et là-dessus je vais terminer, parce qu'il est passé par ces étranges chemins de l'impossible humain. Eh oui, Jésus est passé par là. Nous n'avons pas un sauveur qui nous dit « Marchez, vous me suivez, vous essayez de ne pas me perdre en chemin, regardez bien à moi, je marche devant vous, mais surtout, hein, pressez le pas parce qu'il faut sortir le plus vite possible ». Non, quelquefois, la délivrance, elle se fait, ou la guérison, elle se fait dans la patience. Alors, lui, il connaît le chemin, et il est en train de nous montrer les choses. Alors, qui est-il? On a déjà évoqué son nom. Que connaît-on de lui? Est-ce que nous connaissons son nom? Qu'a-t-il fait? Et pour ce faire, eh bien, je voudrais simplement lire dans Hébreux, on va simplement lire le passage, hein, parce qu'il est quand même évocateur de la proposition qui nous est faite maintenant. Alors, donc, il y a pas mal de pages dans la Bible, hein, c'est pas toujours trop facile à tourner. Alors, dans Hébreux, chapitre 10 et verset 20, je lis ceci. Ainsi donc, nous avons au moyen de Jésus, et il est souligné, je le cite maintenant, au moyen du sacrifice de Jésus, du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire n'est pas en bas, il est en haut. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa vie, de sa chair qu'il a laissée sur la croix du calvaire. Je relis ça, c'est important, hein. Le sanctuaire, ce n'est pas une église, c'est pas un monument de pierre. Et le sanctuaire, il est spirituel. Les vrais adorateurs adorent mon Père en esprit, en vérité. Il est spirituel. Et il nous est parlé d'une route nouvelle et vivante. Une route qui traverse la jungle et qui traverse le désert. Parce qu'il est inauguré à travers ce qu'il a fait pour nous en donnant sa vie, mort que nous étions, pour que nous puissions vivre, tout simplement. Et il est bien dit à un moment donné, nous avons un souverain sacrificateur que je traduirai, nous avons un guide parfait qu'il a établi sur la maison de Dieu. Alors approchez-vous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. C'est ce que nous soulignions il y a un instant. Voilà, c'est ça, une route nouvelle. Elle existe cette route et elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle ne nous fait pas tourner en rond pour revenir là, eh bien, au même endroit, pas du tout, hein. Route nouvelle et vivante. Et cette route, Jésus nous dit, je suis le chemin. Vous savez, dans Jean chapitre 12, oui je crois, peu importe, mais c'est dans l'évangile de Jean, il nous est parlé, je suis le chemin. Et il dit ceci, je suis la vie, suis ce chemin et tu vivras. Fais confiance au Seigneur. Et puis un dernier texte qui clôturera notre méditation, c'est dans Hébreux chapitre 12, chapitre 2, pardon, et au verset 14, voilà, chapitre 2, verset 14, nous l'avons ici. Alors, 2, 14, il est dit ceci. Et là, nous avons la réalité de ce que nous avons lu tout à l'heure, que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions véritablement trouver le chemin. Ainsi donc, puisque nous les hommes, qui sont appelés dans notre texte, les enfants de la chair. Puisque nous, les hommes, dans la chair, voilà. Il y a, Jésus y a également participé lui-même, parce que Dieu s'est incarné, on l'a vu dernièrement dans une méditation, Dieu s'est fait homme, il a pris toute la condition des hommes, afin que par la mort, que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, celui qui nous égare. Celui qui nous met de la poudre aux yeux, celui qui nous entraîne dans les profondeurs ténébreuses de la jungle ou dans le vide, et bien là, du désert. Oui, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la peur, la crainte, l'effroi de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mais le meilleur reste encore, bien que ce soit excellent. Car assurément, ce n'est pas à des anges que Dieu vient en aide, mais il vient, et bien, à la race humaine, aux hommes, tous pécheurs, sans exception, qu'il soit juif ou qu'il soit tout simplement d'une autre origine, peu importe. En conséquence, écoutez bien, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, à nous, à notre humanité. Jésus a tout connu. Il a connu, on pourrait le dire, la saturation de la vie, et il a connu aussi le désert. Et il en connaît la sortie, naturellement. Alors il était rendu semblable à ce que nous sommes, afin qu'il soit pour nous le guide miséricordieux, le sauveur miséricordieux, pour les juifs le messie miséricordieux, et il a été fidèle dans le service que Dieu lui a confié. Un seul homme, et le monde peut être sauvé. Un seul homme, et le monde est sauvé. Pour faire l'expiation des péchés du peuple, parce que les péchés, ils sont à la fois dans le désert, et ils sont aussi dans la jungle. Tout simplement, et écoutez bien la fin, car du fait qu'il a souffert lui-même, et qu'il a été tenté, ouais, qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont aussi tentés de désespoir, tentés de suicide, tentés de mourir dans cette dimension impénétrable de surdensité, de suroccupation, ou alors le contraire, mourir dans le désert, parce qu'il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Alors à ce moment-là, bien sûr, retenons ceci, il a participé lui-même, il délivre ceux qui sont retenus, et il peut secourir. Je voudrais revenir simplement pour terminer par le dernier verset, celui que nous avons lu en premier. Écoutez bien, Dieu dit, je veux l'attirer et le ou la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ce matin, ce que nous avons fait, c'est que ce n'est pas un homme seulement qui parle. Moi, je suis simplement un messager. Mais le principal, c'est le message. Et Dieu nous dit à tous ceux qui sont désespérés, dans la sur ou dans le moins, dans le plus ou dans le moins, ou dans le rien, tout simplement, je parlerai à son cœur. Et moi, je compte sur l'action du Saint-Esprit qui agit, même à travers les moyens modernes que nous avons aujourd'hui, pour que Dieu parle à quelques-uns, à plusieurs, et des gens qui se désespèrent et qui se disent « Mais ce confinement, je n'en peux plus, je ne supporte plus. » Eh bien, Dieu en connaît la sortie. Parce qu'il est dit « Là, je lui donnerai ses vignes, c'est-à-dire la joie. » Le vin, c'est la joie, c'est l'image de la joie et de l'épanouissement. « Et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et il ou elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour de sa délivrance, lorsque, pour Israël, est sorti d'Égypte. » Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Et ne désespérez pas. Encouragez-vous par cette parole. Et retenez bien, je parlerai à son cœur. Que Dieu parle à votre cœur. Et qu'il vous bénisse. Merci pour votre écoute.